Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. La situation sécuritaire se dégrade au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, plus de 70 personnes ont été tuées dans des attaques qualifiées de terroristes par les autorités. Et ces attaques et embuscades meurtrières se sont multipliées en septembre, visant en priorité les forces de défense et de sécurité, mais les civils sont également des cibles désormais. Et au front nord s'est ajouté un nouveau front à l'est du pays. Bandits ou djihadistes, qui sont les assaillants? Pourquoi le Burkina est-il devenu le terrain privilégié des groupes armés? Pourquoi l'armée semble-t-elle impuissante? Peut-on parler d'un échec du G5 Sahel? Votre avis nous intéresse, alors appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. La semaine dernière, plus de 200 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria en Tanzanie. C'est le sujet que vous avez retenu, Maki. Bonjour.
Oui, Chantal, bonjour et bonjour à tous.
Vous nous appelez de Conakry. En ligne avec nous de Dar es Salaam, Robert Minangwa, bonjour.
Bonjour, bonjour Chantal, bonjour Maki, bonjour les auditeurs.
Vous êtes notre correspondant dans la capitale tanzanienne et coordinateur des rédactions Swahili et Haoussa de RFI. Maki, quelle est la question que vous voulez poser à Robert?
Merci Chantal. Alors, comme vous venez de le rappeler, le nombre de passagers dépassait largement la limite autorisée. Alors, je voudrais savoir comment expliquer un tel surcharge et de ce fait, est-ce l'unique en fait cause du naufrage?
Robert,
et aussi, peut-être une dernière question rapidement.
Après. On se contente d'abord de répondre à votre première question, Robert.
Eh ben, écoutez, pour répondre à Maki, le nombre total de passagers n'a jamais vraiment pu être établi de façon formelle, faute d'une liste des passagers montés à bord. Et le ministre des Transports de Tanzanie a toutefois donné hier un chiffre tout nouveau. 257 passagers seraient montés à bord de ce ferry qui ne comportait que 101 places. Alors très souvent, les responsables ne sont jamais très regardants sur le respect des limites de chargement. Et ceci n'est d'ailleurs pas propre à la Tanzanie. Comme vous le savez, beaucoup de cas sont, et d'embarcations sont surchargés quelque part un peu sur l'ensemble du continent. Mais ces surcharges, elles sont faites liées souvent dans une logique de faire du chiffre et donc du profit. Il faut savoir également que le ferry effectue deux rotations quotidiennes entre les îles tanzaniennes. Et ce jeudi, le jour du naufrage, c'était jour de marché. Et donc, le transport de marchandises et passagers est beaucoup plus important qu'un autre jour de la semaine. Même s'il existe deux versions sur les circonstances du naufrage, tout le monde reconnaît que le ferry NV Nyerere était bien trop chargé. Le ferry s'est retourné brusquement alors qu'il avait presque rejoint le rivage de l'île d'Oukoura et à quelques dizaines de mètres seulement du point d'arrivée. Et comme souvent sur les ferries, les passagers se précipitent vers l'avant du bateau pour être les premiers à mettre le pied à terre. Une rescapée a affirmé qu'en plus du mouvement de foule, le ferry était encombré d'énormes charges et de marchandises, des ballots, des sacs de maïs, des fûts de bière. Bref, on le voit, c'était une image un petit peu apocalyptique. Et puis d'autres témoins affirment que l'homme à la barre était en train de manœuvrer et tout en manœuvrant, il avait son téléphone portable à l'oreille. Il aurait donc raté son approche et tenté une manœuvre de rattrapage limite, brusquement. Et le président tanzanien a lui-même affirmé que le capitaine du bateau ne se trouvait pas à bord ce jour-là et il avait délégué sa mission à un subalterne visiblement non expérimenté.
Maki, est-ce que vous avez une autre question?
Oui Chantal, toute une dernière, c'est de savoir quelles sont les mesures prises par les autorités tanzaniennes pour éviter ce type de catastrophe à l'avenir.
Robert.
Eh bien, le président Magufuli a tout de suite été très très ferme et explicite. Il a annoncé à la télévision qu'il mettait en état d'arrestation tout le personnel de la compagnie en charge de la gestion du ferry. Le Premier ministre également a promis de son côté la mise en place d'une commission d'enquête et le remplacement du ferry naufragé par un nouveau bateau. Alors on peut s'attendre à ce que les contrôles du ferry soient renforcés sur les passagers dans les semaines et les mois qui viennent. Et je peux vous dire que c'est déjà le cas, par exemple, pour la compagnie privée Azam qui fait la liaison Dar es Salaam avec l'île de Zanzibar. Et là, chaque passager se voit attribuer un ticket d'embarquement nominatif, comme pour les avions. Un chemin du quai à la passerelle est isolé par des barrières. Et à deux reprises, les tickets sont contrôlés avec des lecteurs portatifs au laser, ce qui permet de compter instantanément le nombre de passagers. Mais voilà, c'est pas encore une règle générale.
Merci beaucoup Robert pour ces précisions. Maki, bonne journée à Conakry. Et justement, vous qui nous écoutez à Conakry, n'oubliez pas que Juan Gomez vous donne rendez-vous aujourd'hui à partir de 13h au Centre culturel franco-guinéen pour l'enregistrement en public de deux émissions d'appel sur l'actualité. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Juan vous propose de dresser un bilan. Que reste-t-il de l'euphorie de 1958, de ses coups à nos jours, comment la Guinée a-t-elle géré son indépendance? Ensuite, le débat portera sur les massacres du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry. À quand un procès? Quelles répercussions ces crimes ont-ils eu dans le pays? Alors venez nombreux tout à l'heure à 13h au CCFG à Conakry. Juan Gomez vous y attend. Le feuilleton Brett Kavanaugh aux États-Unis, le juge que Donald Trump a désigné pour la Cour suprême, mais qui doit encore être confirmé, est désormais accusé par deux femmes, Christine Blasey Ford et Deborah Ramirez, de les avoir agressées sexuellement lors de soirées étudiantes. Tanguy, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous nous appelez de Libreville au Gabon. En ligne également avec nous, Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Tanguy, vous pouvez poser votre question à Corentin Célin.
D'accord, merci Chantal, vous avez si bien planté le décor. Alors, dans quelle mesure ces accusations peuvent-elles compromettre l'élection du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême?
Corentin.
Alors, c'est évidemment difficile de le dire avant l'audition qui aura lieu demain de Brett Kavanaugh et de sa première accusatrice, Christine Blasey Ford. Cependant, les choses ont évolué durant la nuit puisqu'on a appris que le comité judiciaire du Sénat qui auditionne demain donc Brett Kavanaugh et son accusatrice votera dès vendredi pour savoir s'il confirme ou pas Brett Kavanaugh. Ce qui signifie qu'en fait, on a l'impression que les républicains du Sénat, donc les élus proches de Donald Trump, vont écouter Christine Blasey Ford d'une oreille, on va dire, indifférente, et qu'ils voteront ensuite, vraisemblablement, pour confirmer Brett Kavanaugh. En tout cas, comme ils ont également refusé une enquête du FBI pour éclaircir les accusations, on a quand même l'impression que sous la pression de Donald Trump et de la Maison-Blanche, les républicains du Sénat, sauf coup de théâtre demain durant les auditions, se dirigent vers une confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême.
Tanguy, vous avez une autre question pour Corentin Célin?
Alors, comment peut-on comprendre que ces accusations ressurgissent près de 30 ans plus tard?
Corentin.
Alors, on peut le comprendre de plusieurs manières. Déjà, elles ne surgissent pas vraiment 30 ans plus tard. On a appris par exemple hier que l'inconduite sexuelle envers la seconde accusatrice, Debbie Ramirez, avait été évoquée par ses anciens condisciples, étudiants de Yale, avant même que Brett Kavanaugh ne soit nommé par Trump, que les anciens étudiants en parlaient souvent entre eux, hein, les journalistes qui ont sorti cette seconde accusation ont vu des mails qui étaient antérieurs à la nomination de Kavanaugh, donc ce ne sont pas des faits, contrairement à ce que prétend par exemple Donald Trump, qui sortiraient de manière opportune pour empêcher la nomination de Kavanaugh. Ensuite, il faut rappeler que ce sont des souvenirs pour ces deux femmes extrêmement douloureux, extrêmement difficiles, et avoir déjà, par exemple, pour Christine Blasey Ford, les conséquences sur sa vie quotidienne. Sa famille a été obligée de déménager, elle subit des menaces de mort. On comprend bien que tout cela est extrêmement douloureux à évoquer pour ces deux femmes, et on comprend donc qu'elle n'ait pas forcément voulu en parler auparavant de manière très large et en public.
Alors vous l'avez dit, hein, Donald Trump reste à fond derrière son candidat, un homme parfait au passé irréprochable, a déclaré le président américain. Cette affaire tombe quand même un petit peu mal pour le locataire de la Maison-Blanche à l'approche des midterms, les élections de mi-mandat.
Oui, absolument. Je crois qu'on peut dire que les républicains et Trump se trouvent maintenant face à un dilemme. Ou bien, comme le fait le président, ils soutiennent à fond Kavanaugh et ils finissent par et Trump finit par obtenir la confirmation par le Sénat, ce sera une victoire à court terme puisque ça bouleversera la majorité dans un sens conservateur à la Cour suprême pour plusieurs années, mais à moyen terme et long terme, les propos de Donald Trump particulièrement blessants pour les deux femmes qui ont osé dire leur parole en public peuvent lui coûter cher à moyen et long terme avec l'électorat féminin et en particulier avec l'électorat féminin blanc qui avait été décisif dans sa victoire contre Clinton en 2016, qui commençait déjà à le quitter, à s'éloigner de lui et qui là pourrait être vraiment choqué par les propos très, très crus, très blessants du président Trump envers ces femmes.
Merci beaucoup Corentin Célin d'avoir répondu à nos questions. Vous avez coécrit Les États-Unis et le monde, de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU 1826-1945. C'est paru aux éditions Atland. Tanguy, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Libreville. À 6 mois de la date butoir, toujours pas d'accord sur le Brexit. Le sommet de Salzbourg la semaine dernière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni n'a rien donné. Les échanges avec Theresa May ont été tendus et l'UE a rejeté les propositions de la première ministre britannique. Théa Doum, bonjour.
Bonjour Chantal Loro et bonjour à tous les invités de RFI.
Alors vous nous appelez de Béboto au Tchad. En ligne avec nous, Pauline Schnapper, bonjour. Pauline ?
Oui.
Oui, bonjour. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Théa Doum, vous pouvez vous poser votre question, on vous écoute.
Oui, Chantal, ma question est de savoir, un second référendum sur le Brexit est-il possible après les manifestations de ce week-end ?
Pauline Schnapper, est-ce que c'est possible de revenir en arrière et de réorganiser un nouveau référendum ?
Alors, tout est toujours possible, bien sûr, sur le plan théorique, si vous voulez, il n'y a pas d'obstacle juridique, par exemple, à l'organisation d'un second référendum, et il y a la montée d'un mouvement en faveur d'un second référendum, ça très clairement, il y a de plus en plus de gens qui s'expriment, soit sur la scène politique, soit dans les médias, pour dire qu'il faudrait revoter parce que les citoyens britanniques n'étaient pas bien informés lors du premier vote sur les conséquences d'un éventuel Brexit. Mais sur le plan politique, c'est quelque chose qui est très difficile à envisager aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même assez peu probable, il me semble, pour toutes, alors plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement de Theresa May n'en veut pas, et c'est quand même elle qui est au pouvoir et qui devrait le décider. Le Parti travailliste est divisé sur cette question. On a vu le congrès du parti ces derniers jours. Jeremy Corbyn lui-même ne veut pas de référendum, enfin accepterait éventuellement un référendum, mais pas sur le maintien dans l'Union européenne, pour accepter ou pas l'accord que Theresa May pourrait trouver. Mais les troupes travaillistes, elles, sont assez clairement en faveur d'un second référendum. Donc il y a une division du côté travailliste, mais quand même deux leaders des principaux partis qui sont contre. Et puis il y a des raisons politiques aussi plus générales vis-à-vis de l'électorat. C'est extrêmement difficile de dire aux électeurs, vous avez voté il y a 2 ans, mais vraiment on trouve que vous avez fait une erreur, et donc on vous demande de revoter. La crainte de beaucoup d'hommes politiques, c'est que ça provoque au contraire un rejet encore plus fort de la classe politique et de la démocratie au Royaume-Uni. Et puis enfin, il y a un problème de calendrier, si vous voulez. Le Brexit, il doit avoir lieu le 29 mars 2019. C'est le jour où le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne. Il serait très difficile d'organiser un référendum avant cette date.
Théa Doum, vous avez une autre question ?
Oui. Dans quelques mois, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne. Alors, un compromis est-il encore possible ? Et qu'est-ce qui peut se passer si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne sans accord ?
Pauline Schnapper.
Alors là encore, c'est difficile de parler de l'avenir. Pour l'instant, un accord semble difficile à trouver parce que les Européens et le gouvernement May ne sont pas d'accord sur des principes fondamentaux des relations futures. Les Britanniques voudraient sortir du marché unique et de l'union douanière, mais garder un libre accès pour leurs marchandises au marché unique. Et ça, c'est quelque chose que les Européens refusent absolument. Ils veulent pas séparer la libre circulation pour les marchandises de toutes les autres libres circulations, et notamment la libre circulation des personnes. Donc pour l'instant, tout est bloqué. Donc soit il y a un pas soit il y a un compromis qui est trouvé dans les semaines qui viennent, maintenant on parle vraiment de semaines, soit si le blocage subsiste, effectivement, il y a maintenant un risque de plus en plus important de sortie sans accord, et dans ce cas-là, ça veut dire que du jour au lendemain, les frontières sont rétablies, entre et les contrôles aux frontières surtout, entre le Royaume-Uni et le continent, avec des files de camions, des problèmes d'approvisionnement, des réglementations qui étaient jusqu'à présent appliquées sans problème au Royaume-Uni, qui ne pourraient plus l'être, enfin toute une série de problèmes très pratiques qui inquiètent beaucoup, notamment les entreprises et les gouvernements.
Merci beaucoup Pauline Schnapper pour cet éclairage. Je signale à nos auditeurs que vous avez publié « Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne ?» à la documentation française. Théa Doum, merci de nous écouter à Beboto et à très bientôt. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec du football et cet imbroglio autour de la nomination du sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon. Mickaël, bonjour.
Oui,
Vous nous suivez à Cotonou, au Bénin. Cédric De Oliveira, du service des sports de RFI, est à mes côtés en studio. Bonjour Cédric.
Bonjour Chantal, bonjour tout le monde.
Alors, la Fédération gabonaise de football a annoncé un peu trop vite la nomination de Pierre Obamgema sur le banc des Panthères, ce qui a entraîné Aubameyang, je me suis trompée.
Pierre Obam, en fait.
Pierre Obam, ok. Ça. On va y voir. Voilà, c'est une affaire très compliquée, donc on va prendre le temps. Donc, ce qui a entraîné une polémique avec son fils, la star de la sélection, Pierre-Emerick Aubameyang.
Voilà, c'est ça. Alors, la Fegafoot, qui a voulu aller très vite, en fait, pour remplacer l'Espagnol José Antonio Camacho, qui a été limogé au début du mois de septembre. La semaine dernière, la fédération annonce donc officiellement son choix, un tandem composé de deux anciens joueurs, à savoir donc Pierre Obam, assisté de Daniel Cousin, qui était jusque-là manager général de la sélection. Sauf que l'annonce arrive un petit peu tôt. Obam n'a en fait jamais donné son accord, comme le précise son fils Pierre-Emerick Aubameyang le lendemain sur les réseaux sociaux. La star d'Arsenal publie un long message où il explique que son père est préoccupé par des soucis de santé et qu'il n'a absolument pas envie de prendre son poste. Et il en a profité ensuite pour fustiger sa fédération. Pour lui, c'est une nouvelle preuve de son amateurisme à la fédération avec qui il entretient des rapports conflictuel depuis plusieurs saisons.
Mais alors pourquoi la fédération a-t-elle nommé Pierre Obam si l'intéressé n'a jamais donné son accord ?
Eh bien, dans la soirée du message d'Aubameyang, la Fegafoot a admis son erreur. Dans un communiqué, elle explique s'être précipitée sous la pression de sa tutelle, à savoir le ministère des Sports, qui voulait à tout prix rendre rapidement officielle la composition du nouveau staff technique des Panthères. Le ministère explique que les échanges avec Pierre Obam avaient été suffisamment constructifs pour faire l'annonce. Il pensait vraiment que l'intéressé allait accepter. Mais Pierre Obam, hormis ses soucis de santé, n'avait pas eu toutes les garanties qu'il espérait pour accepter ce poste. Résultat, c'est finalement l'ancien capitaine de la sélection Daniel Cousin qui est le nouveau sélectionneur. Il sera donc seul à la barre pour sa première expérience sur un banc de touche.
Mickaël, vous qui nous suivez donc à Cotonou, quelle est votre question ? Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Cédric De Oliveira ?
La question est de savoir en fait si... Parce que il semblerait en fait que Pierre-Emerick Aubameyang soit en train de prendre ses distances avec la sélection nationale. Est-ce quelles conséquences cela pourrait donc avoir sur sa carrière en équipe nationale ?
Cédric.
Ça va sans doute pas arranger les relations déjà tendues entre les deux parties. Aubameyang est régulièrement critiqué pour choisir les matchs qu'il dispute avec la sélection. Il a d'ailleurs disputé le match face au Burundi en mois de septembre en éliminatoire de la CAN 2019. Il a d'ailleurs marqué, mais il a refusé ensuite de participer au match amical contre la Zambie. Et dans son fameux message publié vendredi, il prend à partie directement ses dirigeants. Vous vous demandiez pourquoi je ne voulais plus venir en sélection. Ceci en est la démonstration. Le jour où la fédération ne fera plus preuve d'amateurisme, l'équipe national pourra peut-être avancer et retrouver des résultats cohérents. Fin de citation. Alors il est visiblement remonté. Pierre-Emerick Aubameyang reste à savoir s'il répondra favorablement à une probable convocation de Daniel Cousin pour les deux matchs capitaux, face au Soudan du Sud. Ce sera en octobre pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019. Et urgence, on le rappelle, le Gabon est troisième de son groupe avec seulement un point en deux rencontres.
Alors, est-ce qu'on reverra la star d'Arsenal avec le maillot du Gabon ? Vous avez un pronostic ?
Pierre-Emerick Aubameyang, il aime cette sélection. Alors voilà, reste à savoir s'il aura les garanties qu'il espère.
Merci beaucoup Cédric De Oliveira. Mickaël, à bientôt.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.